Je vais commencer par essayer de faire un grand saut d'une fiche de paie très très vite jusqu'au budget de la Sécu. Après, vous parlez de la cotisation, comment ça fonctionne. Et puis, d'en repasser à la valeur ajoutée, le PIB, en fait, le partage salaire-profit dans l'économie. Alors, j'attaque. Ça, c'est une fiche de paie fictive. Donc, vous savez comment ça marche. En gros, il y a ici, il y a des lignes, et là, il y a des colonnes. Donc, les lignes, c'est le salaire de base, les heures qu'on a fait, etc. On a un salaire brut, et toute une série de contributions, de lignes qui correspondent en fait à de la sécu, à des caisses de sécu. Et qui, chacune, bon, il y a la retraite, il y a les allocs, il y a l'assurance chômage, mais on y viendra après. Chacune avec une base qui est en général le salaire brut, mais il peut y avoir des abattements ou des rajouts, etc. Un taux, un pourcentage, quoi. Et puis, soi-disant, une part salariale et une part patronale. Et on verra que c'est de la blague, ça. Voilà, pour arriver à. Donc, on part du salaire brut, on déduit soi-disant les cotisations pour arriver au salaire net. Ça, c'est ce que les gens pensent. Mais je vais vous montrer que c'est plus compliqué que ça, ou peut-être plus simple. Donc, là, en gros, ça, c'est l'exemple sur une fiche de paie à 3 000 euros brut. Donc, le salaire brut, c'est le salaire net plus les cotisations dites salariées. Le salaire super brut ou total, on rajoute à ça les cotisations employeur. Donc là, vous voyez que pour arriver, si on part d'un brut à 3 000, on a un net de 2 291, 709 de cotisations salariées, 1 484 de cotisations employeur. Donc, ça fait un total de 2 193 euros de cotisation pour 2 291 de salaire net. C'est des calculs de 2021, je crois. Ça a pu changer un petit peu depuis, mais les ordres de grandeur sont quand même encore à peu près ça. Donc, vous voyez déjà que là, sur un salaire de 2 000 balles à peu près net, vous avez autant de cotisations que le salaire net. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces cotisations? En fait, elles vont dans différentes caisses. Elles servent à payer, ou à financer plutôt, les pensions de retraite, la santé, l'emploi, les accidents de travail, la famille, etc., etc. J'y viendrai. Je passe vite parce que j'ai des slides là-dessus plus détaillés. Donc, ces cotisations-là. Donc là, on part de l'exemple d'une fiche de paye à 3 000 euros qui génère 2100, à 2 291 pardon, net. Qui génère 2 193 de cotisations en plus du salaire. Et là, ici, on passe au niveau national, du coup. On collecte ça entreprise par entreprise, et puis on arrive à un budget de la protection sociale qui est comme ça en milliards d'euros. Donc ça, c'est les vrais chiffres de 2022. Vous avez 376 milliards d'euros sur les pensions de retraite. 318 milliards, tout ce qui concerne la santé, 59 pour la famille, 48 pour l'emploi, 33 pour la pauvreté et 16 pour la pauvreté, c'est-à-dire les allocs, etc. Et 16 pour le logement. Donc vous voyez les proportions. Là, on a les pensions de retraite, c'est la plus grosse part, c'est 44%. La santé, c'est une grosse, grosse part aussi, c'est 37%. Puis le reste, après, c'est beaucoup plus petit. C'est pas pour rien qu'on parle tellement de la réforme des retraites et puis de casser le système de santé, parce que c'est là où il y a le plus de fric à piquer. Mais on y reviendra. Donc ça fait un total, chiffre 2022, de 849 milliards d'euros de protection sociale, le budget de la protection sociale. Ça veut dire que ça représente à peu près un tiers du PIB, 32% exactement. Le PIB de 2022 étant de 2 639 milliards d'euros. C'est bien d'avoir les ordres de grandeur en tête, parce qu'on ne parle jamais de la valeur absolue du PIB. 2 600 milliards, c'est quand même énorme. On est à la 7e puissance économique mondiale. C'est énormément de l'argent. Et sur ce PIB, il y a un tiers qui est de la protection sociale. En comparaison, les recettes de l'État, c'est 317 milliards en 2022. Sauf que l'État, lui, il s'endette allègrement. Donc, il emprunte sur les marchés financiers. Là, en 2022, il a emprunté 160 milliards. Ce qui fait que les dépenses de l'État, c'est 477 milliards en 2022. Mais comparer même le chiffre avec les dettes de l'État, qui est ici, 477, avec le chiffre de la Sécu, 849. Donc on voit que déjà ces deux budgets séparés, et puis il y en a un qui est à peu près deux fois plus grand que l'autre. Vous voyez pourquoi c'est important dans notre économie, quoi. Un tiers du PIB, tel qu'il est comptabilisé aujourd'hui. Alors, un peu plus de détails, toujours avec les ordres de grandeur. Donc, à gauche, vous avez les branches et leur gestion. Et à droite, les grands types de prestations sociales. En fait, vous avez la santé, donc 318 milliards à peu près, qui est gérée par l'assurance maladie et la CNAMS. Et dans la santé, il y a tout ce qui concerne la maladie proprement dite, les remboursements, par exemple, de soins, mais aussi les salaires des soignants hospitaliers, par exemple. Ça rentre là-dedans. Les soignants sont payés par la Sécu, ceux qui travaillent à l'hôpital public, en tout cas. Il y a l'invalidité, 47 milliards, quand même, pension d'invalidité, et accident de travail, maladie pro, à peu près 7 milliards. Après, vous avez tout ce qui est vieillesse survie, 376 milliards. Et ça, c'est géré par la CNAV, Caisse nationale d'assurance vieillesse. Les pensions de retraite, 335 milliards. Et puis là, les pensions de réversion, essentiellement, c'est quand même 40 milliards. Ouais, c'est pareil. Après, la branche famille, qui est gérée par les ICAF et la CNAF au niveau national. Donc, 59 milliards, donc ça, c'est tout un tas d'allocs, de prestations de garde d'enfants, l'aide sociale à l'enfance, les congés maternité, etc. Ensuite, tout ce qui concerne l'emploi. Alors, c'est là où le vocabulaire est intéressant, parce que quand vous allez entendre le budget de la Sécu, vous ne verrez pas 848 milliards. Vous verrez ça moins l'emploi. Parce que, le chômage, quoi. Parce que l'UNEDIC, qui gère l'assurance chômage, a été créé seulement en 58. Et la Sécu a été créée en 46, enfin, le régime général de Sécu en 46. Donc, dans le vocabulaire, mais c'est important parce qu'on peut faire la confusion. Tout ce qui est assurance chômage, ça ne fait pas partie de la Sécu, ça fait partie de la protection sociale. Donc le budget de la protection sociale en termes de prestations, de dépenses, en tout cas, c'est ça. Je viens de l'après. Ça, c'est les prestations plutôt, parce qu'il y a encore un petit plus. Mais là-dedans, il y a la Sécu plus l'assurance chômage. Ouais. Et donc dans les 48 milliards de l'assurance chômage, il y a 41 pour le chômage. Et 7% pour l'insertion et la réinsertion, etc. Les 16 milliards du logement, ils sont là. C'est les APL, c'est les ALF, c'est les allocations logement, les aides pour le logement, etc. Tout ce qui est pauvreté, exclusion sociale, donc ça, c'est toujours géré par la CAF et les CNAF. 33 milliards. Donc là, il y a une bonne part de RSA, il y a les CCAS, des aides, des primes, etc. Et l'ensemble, ça fait toujours 849 milliards. Et les recettes de la Sécu, parce que là, on parlait des dépenses, mais les recettes sont gérées par une branche à part qui s'appelle l'URSSAF. Et en fait, qui est gérée par l'ACOS. On va dire l'URSSAF pour simplifier.
Ouais. J'ai une petite question. Pour la ligne pauvreté exclusion sociale, le RSA, il est financé par les départements ?
Ouais, mais il doit y avoir un transfert.
Département.
Oui, c'est l'État qui transfère à l'euro.
Moi, je pensais que c'était une aide sociale et c'était l'État qui versait, qui payait le RSA. En fait.
C'est à vérifier. Mais
parce que pour moi, en tout cas, c'est une aide sociale, c'est pas la sécurité. Ouais.
C'est possible. Peut-être que c'est une erreur.
Non, mais là, t'as la.
Tu parles du RSA.
La CMU, par exemple, non ?
Oui.
C'est moins que ce soit en.
C'est
je vérifierai pour le RSA. En tout cas, c'est géré par les départements, c'est sûr, mais est-ce que c'est pris entièrement sur le budget départemental où il y a des transferts ? Ouais, ça vérifie.
Ça vérifie,
ouais. C'est la protection sociale.
Ah. Ouais, voilà. Donc maintenant, là, on parle des recettes. Des recettes de la protection sociale en 2022. Donc, vous avez un total de 913 milliards. Il y a un tout petit mystère, mais c'est à moitié. Parce qu'il y a 64 milliards de différence entre ces 913-là et ces 849-là. C'est parce que il y a le paiement des frais financiers et non financiers. Je n'ai pas réussi à en avoir le détail, mais je fais l'hypothèse, par contre c'est à vérifier aussi, qu'il s'agit notamment des frais de gestion, mais aussi des frais financiers dont Nicolas Da Silva parle, liés à la spéculation sur les marchés financiers, aux dettes, etc. Bon. Donc il y a 64 milliards, en tout cas, c'est les frais. Mais si on enlève 913 à 64 à ces 913, on retrouve nos petits ici sur les dépenses en termes de prestations sociales. Donc, sur ces 913, il y en a 54%, 493 milliards, qui sont de la cotisation. Donc, vous voyez que rien que les cotisations sociales, c'est déjà plus que le budget de l'État. Mais il y a plus que la cotisation, plus seulement de la cotisation, il y a aussi des impôts et des taxes affectées, des ITAF. 279 milliards, dont 142 milliards de CSG, contribution sociale généralisée. Ça a été inventé par Bocard pour remplacer de la cotisation par de l'impôt. Il y a 57 milliards qui sont pris sur la TVA, donc là, qui sont payés même par les clodos, par tout le monde. Et il y a 25 milliards d'impôts sur le revenu, d'impôts divers, impôts sur les produits, sur les salaires, la main-d'œuvre, sur la production, etc. Et en plus de ça, on pioche dans le budget de l'État 116 milliards pour financer les 913 milliards de protection sociale en 2022. Donc au départ, en 1946, quand on a fondé le régime général du Sécu, c'était 100% financé par la cotisation. Vous voyez, maintenant, en 2022, c'est 54%. Et le gouvernement n'arrête pas d'essayer de faire baisser cette proportion pour la remplacer par des impôts. Donc ça, c'est la répartition sur un diagramme en bâton. On voit bien que l'évolution depuis 1959 à 2021 va vers la diminution drastique de la part des cotisations et l'augmentation de la part des impôts et des contributions publiques. Alors, je vous ai mis les sources à chaque fois en bas, vous pouvez aller vérifier. Donc, on reviendra sur pourquoi ces changements et tout ça, mais il y a autre chose qu'il faut comprendre, c'est que la Sécu, ce n'est pas l'État, mais au départ, c'est de la démocratie sociale, ou qu'on appelle aussi la sociale. Déjà, ce n'est pas du droit public, c'est du droit privé. Les caisses, c'est des organismes de droit privé, mais qui ont une mission de service public. Au conseil d'administration, il y a des salariés et il y a des patrons, via les syndicats. Il y a 165 000 salariés de 350 organismes de sécu qui sont donc pas fonctionnels, qui dépendent des conventions collectives de leur secteur, en droit privé. Mais le gouvernement fixe chaque année les budgets, les taux de cotisation avec la loi de financement de la sécurité sociale. Ça date des années 90. Avant, il n'y avait pas ça. C'était les discussions entre les syndicats ouvriers et les syndicats patronaux. Et à partir des années 90, c'est le Parlement, les députés, les sénateurs, qui fixent les budgets, les taux de cotisation avec une loi de financement de la sécurité sociale. Donc au départ, c'est un système qui est créé par le mouvement social, qui a été cristallisé à l'occasion de trois ministères communistes. Mais c'est un grand mouvement social pour mettre fin à la précarité après les deux guerres mondiales, etc. Géré par les syndicats ouvriers, en arrachant un financement par prélèvement sur les entreprises. C'est-à-dire que la cotisation, c'est une part de l'économie qu'on socialise, qu'on met dans un pot commun et qu'on gère nous-mêmes. Donc, c'est complètement révolutionnaire comme truc. C'est-à-dire que c'est pas qu'on pique aux capitalistes, c'est eux qui nous piquent la valeur et qui restituent ce qu'ils veulent. Et c'est qu'on récupère par rapport au système capitaliste une partie de la valeur que nous avons produite collectivement pour la gérer nous-mêmes au service du bien commun. Donc, la sécu, c'est ça. C'est révolutionnaire et ça ne demande qu'à être étendu. Donc, au départ, c'est intéressant d'aller un peu dans le côté historique des choses pour voir comment c'était au début. Même si ce n'était pas parfait, ça a toujours été le résultat d'un rapport de force. C'était quand même très intéressant puisqu'il y avait trois quarts de syndicats ouvriers qui géraient, un quart de syndicats patronaux, enfin joli quoi. C'est les ouvriers qui se mettaient d'accord sur la gestion des caisses. Et d'ailleurs, en 1947, il y avait des élections des directeurs des caisses dans les entreprises, par les salariés eux-mêmes. Alors ça, c'est un des premiers trucs qu'on a perdu, parce que c'est inadmissible de politiser l'entreprise. Donc dès 1950, c'est sorti de l'entreprise pour aller dans les mairies. Il y a eu élections dans les mairies. Et puis ensuite, plus du tout. On a perdu, en 1967, on a perdu la gestion des caisses, en fait. Puisque les ordonnances Jeanneney sous De Gaulle ont fait passer de trois quarts ouvriers, syndicats ouvriers et un quart syndicats patronaux à moitié-moitié. Ce qui fait que les patrons avaient le pouvoir de fait, puisqu'ils arrivent toujours à acheter un syndicat pour avoir une majorité. Donc ils ont eu la majorité dans les caisses et ils les géraient comme eux l'entendaient. Mais au départ, c'était complètement autogéré par les bénéficiaires eux-mêmes via leur syndicat. Voilà. Aujourd'hui, les directeurs sont nommés par l'État, carrément. Ils ne sont même plus gérés par les patrons, ils sont nommés par l'État. Il y a une étatisation.
Juste, ça, c'est quoi, il y a un code spécial, ça,
code de la sécurité sociale.
Oui.
Et dès le début, ça a été décidé. Enfin, ce code, il existe depuis 1946.
Ma connaissance, il y a le CNR d'abord, mais après il y a le code de la sécu.
Il y a
les ordonnances qui créent la sécu en fait.
Ouais.
Et ensuite il y a toute une série de lois qui viennent amender le code et qui rajoutent de la complexité. Donc il y a les ordonnances Jeanneney en 67, mais il y a plein de choses. Il y a la création de la CSG.
Donc dès le début, ce code, il n'était pas aux mains des syndicats et des ouvriers. Plutôt
au
moins des parlementaires.
Au départ, c'est des ordonnances. C'est des ordonnances de croisins.
C'est le ministre.
C'est le ministre qui a fait. Puis après, ça s'est cristallisé. Il y a eu d'autres lois. C'est cristallisé dans un code en fonction du rapport de force de l'époque. Aujourd'hui, c'est un système qui est de plus en plus financé par l'État et géré par le patronat et l'État, plus ou moins main dans la main. Donc il y a une étatisation, il y a une perte de contrôle, il y a un brouillage des frontières État-Sécu, parce qu'au départ, c'était vraiment différent. Mais maintenant, l'État essaye de remettre la main dessus. Vous avez vu les chiffres, c'est pas pour rien. C'est pour récupérer le tiers du PIB, la gestion du tiers du PIB, qu'on a réussi à socialiser et à gérer nous-mêmes. On se le fait repiquer. Alors, avec un changement de logique, c'est que la logique initiale, c'était qu'on finance la sécu en fonction des besoins. Donc, par exemple, pour prendre l'hôpital, les hôpitaux, ils savaient combien ils avaient besoin à peu près de matos, de salaires, etc. Ils faisaient remonter ça. Et puis, tous les hôpitaux faisaient la même chose, etc. Et ça donnait le budget des hôpitaux. On faisait la somme des besoins. Et ensuite, on s'arrangeait pour avoir suffisamment de ressources derrière pour pouvoir satisfaire les besoins.
Donc, concrètement, c'était fixer le taux de cotisation imposé aux entreprises.
Oui, si on simplifie. Mais en gros, si tu veux, on faisait varier le taux de cotisation, c'est surtout là-dessus, pour satisfaire les besoins. Que ce soit de l'hôpital, du chômage à partir de 58.
Ça veut dire que concrètement, d'un mois à l'autre, une entreprise pouvait recevoir un ordre de taux de cotisation différent, qui augmentait.
Ça, c'est chaque année.
Chaque année,
d'une année à l'autre. D'une année à l'autre, il change.
Ouais. Est-ce que tu peux expliquer pour quelles raisons, en fait, l'État a intérêt à prendre la main sur la sécurité? tu l'expliques après.
Ouais, je crois que j'explique après.
D'accord.
Donc, on part. Ça, c'est important, ce changement de logique à comprendre, parce que c'était vraiment de dire le CNR, le Conseil national de la résistance, en 43, se réunit et écrit quelques pages pour dire qu'on va terminer, on va en finir avec la précarité, grosso modo. On va créer une sécurité sociale. Et on se donnera les moyens pour ça. Et ça a été comme ça pendant longtemps. On s'est donné les moyens de sortir les gens de la précarité petit à petit, grâce à l'outil de la cotisation. Aujourd'hui, c'est le contraire. Il y a une loi de financement de la sécurité sociale. Les députés disent, et le gouvernement, parce que je sais piloter par le gouvernement, mais de toute façon, l'Assemblée n'a pratiquement plus d'initiative en France. Donc, ils disent, eh ben, vous aurez tant de budget pour la sécurité sociale et pour la protection sociale, démerdez-vous avec, pour faire rentrer les besoins. Donc, forcément, bah, ça fait diminuer les prestations. Ça ne fait pas augmenter le budget suffisamment pour satisfaire les nouveaux besoins. Alors, j'en viens à la cotisation. Comment ça marche? Quelques idées reçues à se débarrasser. J'ai cotisé, donc j'ai droit. J'ai cotisé toute ma vie à une caisse, à des tas de caisses. J'ai été salarié ou indépendant, j'ai cotisé à droite, à gauche, retraite, chômage, machin. J'ai payé pour tout ça, je mérite mon retour sur investissement. J'ai droit. Alors, ça ne marche pas du tout comme ça. Alors, l'idée reçue, c'est les employeurs et les employés cotisent. La cotisation m'est déduite de mon salaire. En plus, l'employeur paye plus. Grand merci à lui. Et abat la cotisation parce qu'elle me fait baisser mon salaire. C'est moche. Ça, c'est ce qui nous est transmis en permanence, pilonné, martelé sur les médias dominants. Quoi. Et puis à l'école, et même à l'université, partout. En fait, la fiche de paye nous induit en erreur. C'est une forme de pédagogie patronale. Parce que, regardez par exemple ça, sur même un exemple fictif, mais en fait ça existe vraiment. Vous avez net à payer avant impôt sur revenu, là, 2280, dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations salariales, chômage et je ne sais plus quoi, 42 euros. Donc en gros, ils nous disent, mais ça c'est l'entourloupe, c'est quand Macron a fait son entourloupe suite au gilet jaune en disant je vais baisser les cotisations, ça fera augmenter votre salaire. Il nous dit, voilà, je baisse les cotisations et ça fait augmenter votre net. Voilà. Alors, maintenant, comment ça marche en réalité? C'est de la comptabilité d'entreprise, en fait. Toutes les cotisations sont payées par l'entreprise, de même que les salaires nets. C'est tout payé par l'entreprise à partir de son chiffre d'affaires. Eux, ils appellent ça une charge ou en comptabilité, la masse salariale. Ça fait partie, les cotisations font partie de la masse salariale. Mais c'est payé par l'entreprise. Une cotisation en plus, donc c'est du salaire en plus à payer pour l'entreprise. Pour l'entreprise. Un allègement de cotisation, qu'elle soit salariale ou patronale, en fait, ça c'est un artefact comptable, c'est un jeu d'écriture. C'est du salaire en moins à payer. Donc c'est du profit en plus. Parce que qui dit salaire en moins, dit forcément profit en plus. C'est des vases communicants. En 46, la cotisation, elle ne vient pas retirer du salaire net, elle vient s'ajouter à du salaire net. Elle ne se déduit pas du brut en réalité. On nous induit en erreur dans cette manière de présenter les séquencements, comme s'il y avait un brut auquel on déduit des cotisations pour arriver à un net. En réalité, on a un net, et c'est même comme ça que c'est calculé quand on négocie son salaire. Par exemple, on ne va pas négocier tellement le brut, on négocie plus le net. Le SMIC, c'est le SMIC net. Alors, il y a aussi un brut, en gros. L'employeur, il va dire, bon, bah, je vais lui verser 2000 net, et puis il calcule les cotisations derrière. Ce n'est pas le contraire. Donc, les cotisations, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles viennent du même pot. C'est la masse salariale, la valeur ajoutée, j'y viendrai, mais pour simplifier pour le moment, on va dire le chiffre d'affaires, et ça va aux mêmes caisses. Ça vient du même pot et ça va aux mêmes caisses, les caisses de sécu, les caisses de protection sociale. Donc, il n'y a pas lieu de distinguer entre cotisation salariale et cotisation patronale. Je ne sais pas si ça fait sens, parce que ça va vraiment à l'encontre de ce qu'on entend.
Mais donc, c'est le collège des syndicats, des ouvriers qui avaient imposé que la part salariale était plus importante que la part patronale.
Oui,
la part salariale, il y a un rapport de force.
Mais cette illusion, elle date effectivement presque du début. Mmh. Mais ça, c'est au début, les fiches de paie étaient très, très, très simples. Et puis, elles se sont complexifiées. Et maintenant, on a toutes les cotisations qui nous sont déduites pour qu'on voit bien que, oh, regardez tout ce qu'on me déduit de mon salaire. Mais c'est faux. Pourquoi mettre ça sur la fiche de paie? On pourrait aussi bien mettre l'électricité consommée par la boîte. Et on peut mettre n'importe quoi sur la fiche de paie. C'est juste, c'est l'entreprise qui paye tout ça. Et on nous fait croire que c'est le salarié qui paye et le patron qui paye deux fois plus que le salarié. Donc voilà, ça part du même pot. C'est prélevé sur la valeur ajoutée des entreprises, en fait. Et ça va au même prix.
C'est pas le patron qui paye.
C'est pas le patron qui paye.
C'est la valeur produite par les ouvriers qui payent.
Mmh. Ça, j'y viens. Mmh. Tout à l'heure. Donc, la cotisation, c'est du salaire. Alors, il y en a dans la salle qui n'aiment pas, ça, mais c'est comptabilisé comme de la masse salariale. On peut dire que c'est du salaire socialisé ou c'est une part de la valeur qui est produite, effectivement, qui est mise dans un pot commun, qui est socialisée. Donc, si on baisse les cotisations, on baisse les salaires, on augmente les profits. Si on augmente les cotisations, ça fait augmenter les salaires, ça fait baisser les profits. Ça, c'est mécanique. Et juste retenir ça, c'est déjà pratiquement gagné, parce qu'on contre le discours dominant qui nous dit, oui, ben, c'est des charges.
Augmenter le profit de l'entreprise.
De l'entreprise.
Évident, bien sûr.
Et in fine, ben, des actionnaires et des prêteurs.
Oui. Par contre, quand on définit le salaire, tu sais, augmenter les cotisations, ça peut augmenter le salaire, mais les gens, ils vont dire, mais moi, j'ai pas plus. Enfin, le salaire, est-ce que la définition, c'est.
Oui.
Ils disent, j'aurais pas plus, moi, si on augmente les cotisations, j'aurais pas plus. Ils parlent du salaire net, mais du coup.
Ton net, en fait, il ne va pas baisser parce qu'on augmente les cotisations.
Non, il ne va pas baisser.
Non, mais tu peux.
Tu peux pas.
Mais ce qu'il faut comprendre, peut-être, j'aurais dû rajouter ça sur la slide, c'est que ce qui rend la chose très confuse, c'est que c'est prélevé, c'est pris, c'est calculé sur la valeur ajoutée de l'entreprise, mais l'assiette est la base de calcul. Pour savoir combien de cotisations il faut prendre dans le chiffre d'affaires de l'entreprise, en gros, c'est la masse salariale, c'est les salaires.
Donc, les entreprises qui emploient peu de salariés ne payent pas de cotisations sociales.
Voilà, c'est quelque chose qu'il faudra changer.
Le pays des robots.
Bernard Friot veut asseoir, en fait, l'assiette, donc la base de calcul. C'est le salaire. Donc, effectivement, les GAFAM qui embauchent très très peu, les Uber, les plateformes, payent peu de cotisations. Alors que une usine qui embauche plein de monde ou une boîte qui fait travailler beaucoup de monde, elle va en payer beaucoup. Et donc, il faut bien distinguer l'assiette, donc la base de calcul, pour savoir quelle va être la somme qui va être prise sur la valeur ajoutée de l'entreprise. Du lieu de prélèvement. Prélèvement, c'est la valeur ajoutée de l'entreprise. Et les gens font la confusion, c'est pour ça qu'ils pensent qu'on leur prend de l'argent.
Parce que le discours qui fonctionne bien, regardez, votre brut était à 2000, je baisse les cotisations et vous allez gagner 40 euros de plus à la fin du mois sur votre net. Alors les gens, ils s'arrêtent là-dessus.
Les gens ne pensent même pas qu'ils gagnent 40 euros de plus, ils pensent qu'ils gagnent beaucoup. La plupart du temps, quand tu as 2500 euros brut, on va dire, il pense que ça peut arriver jusqu'à 2500. Oui, il y a une méprise.
Ouais, c'est pas les 45 euros, personne ne pense gagner que 45 euros.
Bon, on voit une cotisation, tu vois.
Oui. Et...
Donc, de faire baisser les cotisations, bah, c'est, ça fait diminuer à la fin le salaire. Pour plein de raisons. Parce que, en fait, ce qui est économisé sur la protection sociale, c'est des choses que l'individu va avoir à payer après.
Oui, même. Qu'est-ce que tu dis par salaire ? Parce qu'en fait, c'est plutôt par.
Est-ce que ça paraît juste si on dit non, mais tout ce qui est dans ces cotisations, c'est une partie de ton salaire?
Alors, il y a une part du salaire, il y a le salaire direct, on va dire, salaire direct, ce qui est ton salaire net, c'est ce que tu touches à la fin du mois, que tu repars avec. Et puis, il y a une part indirecte ou mieux dit socialisée. Mais c'est pas ton salaire. C'est notre salaire.
C'est
un salaire collectif.
Donc, tu peux bénéficier si tu es malade.
Donc tu bénéficies, je crois, forcément tôt ou tard. Retraite, chômage, alloc, maladie, accident du travail, formation. Donc, au lieu de taxer les profits, mais j'y reviendrai, exigeons à nouveau l'augmentation des cotisations. Alors, j'en arrive à impôt versus cotisation. Sur toi pour être vigilant, savoir si je réponds à la question ou pas sur l'étatisation. Donc, ça, c'est les recettes de l'État. En 2022, vous avez 317 milliards de recettes de l'État. J'ai mis la CSG en dessous, ça ne fait pas partie des recettes de l'État puisque c'est un impôt, mais qui finance la Sécu. Donc, c'est 142.
C'est à l'euro près la CSG?
Oui, la CSG, c'est fléché, ça va.
C'est fléché directement.
Ça va aller. Donc, budget de l'État, on parle toujours de l'impôt sur le revenu, mais le premier impôt, c'est quand même la TVA d'abord, et qui est payé par absolument tout le monde, comme je disais, clochard compris. 100 milliards. L'impôt sur le revenu, 90 milliards. L'impôt sur les sociétés, ensuite, 63 milliards. Tout un tas de taxes diverses et variées, 31. Tout un tas d'impôts divers et variés, 28. La taxe de consommation sur les produits énergétiques, 18. Les amendes et d'autres petits trucs, 10 milliards. Et là, en compta, ils enlèvent les ressources propres de l'Union européenne. Ils déduisent ça. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Du coup, ça donne un total de 317 milliards. Mais l'État a dépensé 477 milliards. Donc, il y a ces 160 milliards de déficit public. Mais là, vous avez la CSG. La CSG, elle est payée par tout le monde, retraités compris. L'assiette est très, très large. Donc, petite différence entre impôts et cotisations. On peut faire peut-être comme la démocratie.
Ouais.
Qui c'est qui veut lire
À gauche,
et puis quelqu'un répond à droite.
Je lis à droite.
À gauche, c'est les impôts et taxes, et à droite, c'est les cotisations.
Je lis cotisations.
Moi, je veux bien lire impôts et taxes.
Alors, vas-y.
Payé par les contribuables, assiette CSG, CRDS, tous les revenus, même les retraites TVA, même les sans-abri le paient.
Alors que les cotisations sont payées par les entreprises.
Ouais. C'est un style télégraphique, mais en fait, ça veut dire que les impôts et les taxes sont payés par tout le monde. La CSG, la CRDS, leur assiette, c'est l'ensemble des revenus.
Ok.
Redis impôts et taxes pour que j'ai une compréhension.
Au niveau des impôts et des taxes, donc entièrement contrôlés par l'État, impôts et taxes, donc salaire en moins prélevé sur le salaire net. Entièrement contrôlé par l'État, assiette, taux, loi de finances. C'est moi qui l'ai trop vite en fait.
Il y a des couleurs. Mais
pardon.
On t'a pas vu répéter à moi.
On t'a appelé en traître.
Il était pas simple.
Non, j'explique.
Cotisation, salaire en plus. Indirect, socialisé.
Donc vous voyez la différence. Ça a l'air en moins. Parce que les impôts et les taxes, c'est effectivement prélevé sur notre salaire net. Alors que la cotisation, c'est le salaire indirect socialisé.
Je trouve une petite limite avec ça, parce que c'est du salaire en moins, certes, mais les DA en échange, ils font des routes, ils font des machins, sinon ce serait
oui.
Pour payer les routes.
Tout à fait.
Il y a de notre portefeuille. Donc, c'est le même argument que les frais dentaires. Ou
un but,
non,
mais,
non.
Si on reste dans la protection sociale,
c'est pas le même. Il y a une différence.
En fait, c'est simplement sur qui paye. Qui paye. C'est nous d'un côté qui payons avec l'impôt, et c'est les entreprises de l'autre côté avec la cotisation. C'est ça la grosse différence. Donc salaire en moins pour nous, salaire en plus pour
côté cotisation. Ouais, non, mais c'est pour te répondre. La grosse différence, c'est que les cotisations, elles sont fléchées. Tu peux les dépenser pour les dépenses de santé, etc., mais pas pour construire une nouvelle route. Et les impôts, ils ne sont pas fléchés. Et ce n'est pas nous qui décidons comment dépenser nos impôts. C'est les politiques. Tu vois ?
Oui, oui.
Et là, il y a un souci.
Oui, parce que dans la façon dont les décisions sont prises, c'est pas la même. Mais
et là, il y a une grosse différence.
Les politiques restent les gens.
Mais l'argument est quand même. On n'a pas le temps d'entendre un débat.
Ouais.
En tout cas, je trouve qu'il y a un parallèle qui peut être fait, parce que c'est quand même du salaire qui est mis dans un budget qui, après, sert à faire. On peut être d'accord ou pas avec le fait de faire des routes, le fait de.
Mais c'est un autre problème.
Mais c'est aussi un bien commun. Enfin, je veux dire, si l'État ne faisait pas de route, on devrait, nous, se mettre ensemble et payer une route.
Non, je suis pas d'accord, c'est pas un bien commun parce qu'on n'a pas choisi comment les impôts allaient être dépensés. Je regrette, je peux pas faire ça. Non.
Ouais. C'est deux formes de socialisation de la valeur.
C'est deux formes qui sont.
Il y en a un.
Mais en fait, c'est une sur laquelle on a plus la main et une sur laquelle on n'a pas trop.
Mais la main, c'est encore un autre argument. Là, l'argument, c'est simplement que.
Mais l'impôt reste une forme de mise en commun de l'argent quand même.
Oui.
Mais par contre, on n'a pas la main dessus.
Voilà, c'est ça.
Mais là, c'est pas ça l'argument. L'argument, c'est que les impôts, c'est nous qui les payons. Et les cotisations, c'est les entreprises qui les payent.
Oui, c'est surtout ça l'argument.
Les impôts et les taxes sont entièrement contrôlés par l'État. Donc, c'est ce qu'on dit. Contrôle l'assiette, contrôle le taux à travers la loi de finances de la protection sociale. Il contrôle l'utilisation. Ça peut être détourné vers d'autres fins. Ça peut être un peu spéculé.
Alors que les cotisations, c'est seulement partiellement contrôlé par l'État. Au niveau de l'assiette, des taux, la loi de financement de la Sécu, la gestion paritaire par les syndicats, et c'est fléché, on vient de le dire, vers les caisses de la Sécu.
L'assiette, c'est la somme des valeurs ajoutées aux emplois que l'on
a. Non, l'assiette, c'est la base de calcul, ce sur quoi.
L'étendue de ce qui est pris en compte.
Voilà. La base, ce sur quoi on va appliquer un taux.
Un montant sur quoi on va appliquer un taux
pour dire, bon, ben voilà, ça fait tant. Tu veux continuer ?
Je veux continuer, oui. J'ai compris l'exercice. Donc, avec l'impôt et les taxes, redistribution limitée.
Avec les cotisations, c'est une distribution primaire. Et ça fait diminuer le capital au profit du travail.
Ouais, mais on n'y comprend rien si on ne parle pas de valeur ajoutée.
On y vient.
Oui, mais on y vient.
Prochain chapitre.
Oui, mais il faut en parler maintenant.
Non.
Ah bon.
Avec les impôts et les taxes, c'est souvent injuste, TVA, classe moyenne, optimisation.
Avec les cotisations, servent le plus à ceux qui n'ont rien.
Les impôts et les taxes peuvent légitimer la fortune ou le capital.
Et les cotisations légitiment le commun, le bien commun, et se passent totalement de capital et de crédit.
Et les deux ?
Les deux peuvent subventionner les services publics
et
des entreprises pour rejoindre
ce que dit Arthur. Voilà. Les deux sont des modalités de financement potentiel du service public.
Parce que les gouvernants sont censés défendre l'intérêt général et dépenser pour le service public. Mais c'est là où il y a le hiatus.
Et du coup, en plus, quand il y a des impôts, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait des gens très riches.
C'est à moi de parler de ça.
À toi, mais il nous reste un quart d'heure en tout, et j'ai encore des choses à dire après.
J'ai essayé de faire une petite traduction visuelle, finalement, du tableau d'avance. J'ai essayé de traduire à travers ces schémas la différence pareil, qu'il y a entre la cotisation, entre l'impôt et la cotisation sociale. Donc, sur les lignes horizontales, on a attention, ce sont des fictions, ça ne traduit pas du tout une réalité économique réelle. C'est imaginaire pour essayer d'illustrer la différence entre l'impôt et la cotisation sociale. Sur la ligne 1, on a le cas de l'impôt. Donc, et sur la ligne 2, on a le cas de la cotisation sociale. Et en verticale, on a une colonne distribution primaire, marquée en bas, et à droite, une colonne distribution secondaire. La différence entre distribution primaire et secondaire étant que la première distribution de la valeur économique, c'est avant que l'État prenne la main dessus pour redistribuer. Donc, c'est la distribution primaire. La deuxième colonne, c'est l'État qui prend la main sur une partie de la valeur distribuée, une fois qu'elle est appropriée, et qui la redistribue. Donc, je reviens sur la première ligne. Le premier schéma avec du rouge et du bleu cyan. Ah, pardon. Le cercle vert, ça symbolise la valeur ajoutée, créée. Alors, ça peut être un cas particulier sur une entreprise ou tout PIB, disons, admettons. Et le partage bleu cyan et rouge, c'est le premier partage avant la distribution primaire, avant la prise de pouvoir par l'État, entre les salaires et les profits. Les salaires en question étant uniquement ceux produits dans l'économie marchande, les entreprises privées. Et si j'ai bien compris l'exercice, une fois que ce premier partage est fait, on passe à la colonne de droite, distribution secondaire. L'État prend la main sur une partie de la valeur distribuée. C'est la petite tranche de gâteau qui se détache en bleu en haut. On fait un prélèvement d'impôt. Un prélèvement d'impôt. Alors j'ai fait en sorte que le prélèvement il soit un peu à cheval, mais pas vraiment au milieu, entre les salaires et les profits. Histoire de dire qu'a priori, moi si j'ai bien compris, il y a beaucoup plus de salaires qui sont prélevés que de profits. Pour socialiser de la valeur économique et la redistribuer à l'économie pour financer le travail du non-marché. Donc financer une partie de ce qu'on a vu avant, la santé, les retraites, etc. Prélèvement d'impôt après la première appropriation pour financer par redistribution un travail non marchand qui, dans cette perspective, est considéré comme non producteur de valeur. En première approche, l'idée c'est de dire qu'il ne produit pas de valeur, il faut d'abord produire de la valeur dans l'économie marchande à gauche. Et ensuite, quand elle a été distribuée, on peut prélever des impôts pour financer quelque chose qui ne produit pas de valeur. La deuxième ligne, il n'y a plus qu'un seul schéma, c'est en distribution primaire. Le camembert qui était en haut à droite aux impôts, il faut imaginer qu'on vient le flanquer dans le cercle de force. Et il prend une part de la partie rouge qui est au-dessus. Il vient réduire les profits. L'idée, c'est de, moi si j'ai bien compris, l'idée c'est de dire que le travail non marchand, nous affirmons qu'il produit de la valeur. On vient le flanquer ici dans l'économie marchande. On vient ajouter la valeur de ce travail à la valeur des marchandises vendues, produites dans l'économie marchande pour que ce travail-là soit directement financé à travers la vente des marchandises, les échanges marchands. Directement financé. Et donc, dans la colonne de droite, il n'est plus nécessaire de prélever des impôts. Pas besoin de prélever des impôts pour redistribuer de l'argent et financer des choses, des services qui n'auraient pas, qui ne produiraient pas de valeur.
Ben oui, Laurent. Donc, on est bien obligé de parler de la valeur ajoutée, c'est-à-dire de l'ensemble des
valeurs
produites par le travail de tout le monde.
Mais ton schéma, je l'ai positionné un petit peu.
Mais le schéma...
Comment ? Peut-être.
Je m'attendais pas à ce que tu m'étais.
Oui, oui.
Je ne savais pas si tu allais le mettre.
Ouais.
Je ne sais pas s'il est
compréhensible.
Si vous voulez, on revient dessus après l'explication.
Il va reparler de la valeur ajoutée.
Je vais reparler de la valeur ajoutée et après on reviendra sur le schéma.
Mais tu vois, Fabien, il faut en parler avant.
Alors, c'est un essai hein, de schéma, il faut le, peut-être le
ouais, ouais, c'est ça.
Il y a deux, trois trucs.
Alors, avant de parler de la valeur ajoutée, encore le potentiel de la cotisation, c'est qu'elle peut financer des salaires et de l'investissement aussi. Alors, là aussi, l'idée reçue, c'est de dire que j'ai cotisé toute ma vie, par exemple, à la retraite, et je touche le différé de mes cotisations quand je liquide mes droits et que je touche ma pension de retraite chaque mois. Comme si c'était une épargne, en fait. Alors que ça ne marche pas du tout comme ça, ce n'est pas une épargne. C'est les cotisations qui sont prélevées, elles sont immédiatement distribuées, on va dire du mois, puisque c'est sur les salaires. Les cotisations du mois financent les prestations du mois. Et il n'y a pas à attendre 30 ans ou quoi que ce soit, ou à mettre un pot commun. Donc ça dépend finalement de l'économie actuelle. Ça ne dépend pas de l'économie des 30 dernières années. Donc c'est immédiat. Mais ça, c'est factuel. C'est immédiat. C'est tout de suite distribué. C'est mis dans le pot commun, c'est distribué tout de suite. C'est pas différé. C'est pas du salaire différé. C'est immédiat. C'est collecté et c'est distribué. Et c'est collecté sur la valeur ajoutée des entreprises. C'est du salaire socialisé, c'est mis dans un pot commun. Ça permet la poursuite du salaire des retraités et des chômeurs. Donc c'est du salaire continué. Et ça, si vous écoutez la petite causerie de samedi, j'ai parlé un peu, mais c'est la numéro 2 ou 3 du cycle, la conférence 2 ou 3 du cycle sur le travail. C'est le un peu ben, qu'est-ce qu'on peut retirer de deux siècles d'histoire sociale. Et ben ce qu'on en tire nous en suivant le réseau salariat et en suivant Claude Didry qui a écrit un bouquin splendide sur l'institution du travail, c'est que le sens parmi les conquêtes incroyables des deux siècles de bataille 19e 20e siècle en gros, c'est la poursuite du salaire indépendamment de l'activité. On était payé à la tâche, ensuite il y a eu l'emploi, et puis ensuite la qualification personnelle, etc. La baisse du temps de travail, on ne travaille plus les dimanches, les samedis, les congés payés, tout ça, fait que petit à petit, on se détache, le paiement au mois, on se détache de plus en plus du paiement à la performance immédiate de ce qu'on fait. Alors que dans le capitalisme pur, c'est juste des transactions. Il y a un capitaliste qui va acheter, il va acheter un produit et il s'en fout comment c'est produit, il n'y a même pas de travail. Il y a du louage d'ouvrage, c'est pour ça qu'on veut revenir à Uber.
Bah on y revient en fait.
On revient au capitalisme pur.
On y revient.
Et donc, la Sécu permet de prolonger ces conquis de deux siècles d'histoire sociale, de la déconnexion entre l'activité qui est réellement faite à un moment donné par quelqu'un et le salaire qui paie. Donc, si on veut honorer ça et se baser sur ce qui existe déjà pour le prolonger, exigeons d'étendre la poursuite du salaire. Le salaire poursuivi indépendamment de ce qu'on fait. Donc, le salaire à vie.
À condition que tu ajoutes, nous faisons tous de la valeur ajoutée.
Nous sommes les seuls producteurs de la valeur ajoutée. Mais toi, tu ne jures que par ma dernière partie.
Oui, mais frustré elle a la clé parce du reste, c'est pour ça.
Parce que je parle de tout ça dans
la même partie. Les étudiants, ils ne comprennent pas, c'est un peu comme...
Ce salaire socialisé permet la poursuite du salaire des retraités, des chômeurs, des familles, etc. Donc le salaire continue. Il n'y a pas besoin d'accumulation préalable de capital, seulement production de valeur ajoutée. Il n'y a pas besoin de crédit, il n'y a pas besoin d'endettement. On ne passe pas par les banques. Il n'y a pas de coût du capital là-dedans. Et on peut aussi subventionner des entreprises, pas seulement des allocs, des prestations, des remboursements. On peut financer des salaires, mais on peut financer des entreprises par subvention. Dans les années 60, ce qui s'est passé, on est passé des mouroirs gérés par les bonnes sœurs, les hôpitaux, les hospices, à des CHU modernes. Voilà, par l'Église, à des CHU modernes en étant financés à un tiers par la cotisation sociale, sans crédit. Voilà. Le reste, c'était les prêts de la Caisse des dépôts et des subventions de l'État. Donc, en fait, on pourrait très bien financer l'économie avec la cotisation aussi. Toute l'économie, pas seulement les hôpitaux. Donc la cotisation, le régime général de la Sécu, c'est un outil post-capitaliste, puisque ça se passe du profit. Il n'y a pas de profit là-dedans. Il n'y a pas de capital préalable, il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de profit. C'est post-capitaliste. Donc tous les gens qui se creusent la cervelle, mais on n'a pas de plan B, on est dans le capitalisme, on ne sait pas quoi faire. On a le plan B. On sait comment sortir du capitalisme. Élargissons la part socialisée de l'économie à travers la cotisation sociale. Pour le bien commun, géré démocratiquement par tout le monde. On peut s'appuyer dessus pour changer de système. Voilà. J'en arrive à la valeur ajoutée.
Ah parce qu'il, oh, maître, merci, maître.
Dit qu'il reste 2 minutes 30.
Il va me falloir un quart d'heure de plus.
Oui.
Et en plus, on va pas discuté. Est-ce que vous êtes d'accord?
Oui. Pour un quart d'heure?
Il faut faire gaffe à la réunion.
Moi, j'ai quand même envie qu'on parle de points organisationnels.
On se termine ça.
Mais sinon, mais ça, c'est les.
Au concierge, il n'y a pas d'échange à la fin.
Oui, il n'y a pas d'échange. Ok, pas d'échange. Bon. Alors, la valeur ajoutée. C'est la mère de beaucoup de choses en économie.
C'est la mère des batailles.
Des batailles. Alors, il y en a d'autres, les batailles possibles, mais c'en est une. Pour vous faire comprendre la valeur ajoutée, prenons à l'échelle microéconomique la valeur ajoutée d'une baguette dans une boulangerie. Donc, c'est un exemple fictif, mais j'ai quand même essayé de prendre les vrais ordres de grandeur des chiffres de la boulangerie dans l'économie. Donc, une baguette, on va dire qu'elle coûte 1 euro. On prend, c'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires de l'entreprise, 1 euro pour une baguette. On retire à ça les consommations intermédiaires. Donc la farine, l'eau, le sel, 15 centimes. L'électricité, le loyer, etc. Plus l'amortissement des machines, tout ça, 25 centimes. Ça fait 40 centimes. Donc, chiffre d'affaires moins consommation, c'est-à-dire ce qui a été nécessaire pour produire la baguette, ça donne la valeur ajoutée. C'est très simple, en fait. La valeur ajoutée nette, si on veut. Entre-temps, j'ai découvert qu'il y a
quand tu dis chiffre d'affaires, tu veux simplement dire le prix de la baguette vendue et achetée, quoi. Réalisée sur le marché.
Et la somme des ventes d'une entreprise, c'est son chiffre d'affaires.
C'est ça.
On retire ce qui... qu'elle a dû investir, ce qu'elle a dû dépenser pour investir, pour produire, et on a la valeur ajoutée, 60 centimes.
Sauf si elle ne se vend pas ses baguettes.
Et c'est là qu'arrive la distribution primaire dans l'économie. La première distribution, elle se fait dans les entreprises. Entre salaire, cotisation, profit et investissement. On a à peu près 30 centimes de salaire et de cotisation, 20 centimes de profit et 10 centimes d'investissement. Donc ces 60 centimes de valeur ajoutée sont répartis en 3. Et cette répartition-là, elle est absolument cruciale parce qu'elle est le produit du rapport de force dans les entreprises et dans la société entre capital et travail, entre salaire et profit. Là, le rapport de force, il fait qu'on peut nous piquer puisqu'il n'y a que le travail des travailleurs, des individus qui produisent de la valeur. C'est nous qui produisons, le capital ne produit pas de valeur. C'est nous qui produisons toute la valeur. Et là, on en pique 20% avec le profit.
Là est la lutte des classes.
Voilà, la lutte des classes.
Économique.
Et encore, si le patronat décide de ne pas investir ou d'investir une école, et il met ça dans le
capital. Voilà, c'est pareil. Donc ça, c'est dans la boulangerie il y a quelques années. Dans les entreprises du CAC 40, c'est
encore. Il y en a qui n'investissent pas, laissent crever le truc, servent les actionnaires et ferment la boîte. Hein.
Voilà. Et donc.
Mais c'est tout pour eux.
Donc, la distribution primaire, c'est entre salaire et profit et réinvestissement. Une fois que ça c'est distribué, après l'État vient avec les impôts et les taxes reprendre un peu de salaire et un peu de profit. C'est la distribution secondaire.
D'accord.
C'est ça la différence.
Eh bien, tu vois, c'est éclairé.
Mais ça, c'est beaucoup.
C'est par là qu'on va commencer.
Oui, j'aurais dû expliquer ça.
Je me rabâche.
Mais par contre, tu vois,
c'est pour rigoler.
Du coup, c'est l'impôt, donc il est pris là en
plus, on est d'accord, pour payer la sécu.
Ouais, ouais, ouais. Et c'est là que la CSG fait passer une partie du financement de la sécu de distribution primaire payée par les entreprises à distribution secondaire payée par les salariés. Donc c'est une vraie arnaque. Donc voilà, ça c'est très simple hein, en fait à comprendre.
Bah oui.
Ça, faut mettre plus tôt.
Oui.
Et grâce à ça, on comprend le.
Et la somme des valeurs ajoutées, ça fait le produit intérieur brut.
Eh bah oui.
L'étalon magique de tous les économistes.
Pas tous.
Non,
ouais, pas tous. Mais presque.
Mais oui, la majeure partie.
Donc voilà, la somme des valeurs ajoutées, c'est le PIB. Et la valeur ajoutée, elle est distribuée en salaire, impôts, profit. C'est la répartition primaire. Bon, ça, c'est ce que j'ai expliqué avant. Et grosso modo, dans l'économie nationale, c'est un tiers de profit, deux tiers de salaire. Ou, ça tombe bien parce que c'est à peu près ça. C'est à peu près des proportions qui tombent presque juste. Un tiers de salaire socialisé, donc de cotisation, etc. Un tiers de salaire direct et un tiers de profit. Donc, vous voyez l'importance de la distribution primaire. Parce que c'est là où se fait la lutte des classes.
Voilà. Et c'est là par quoi il faut commencer.
Moi, j'avais vu un graphique dans le temps, depuis les années 90, il y a la part des salaires de la valeur ajoutée qui a tendance à suivre.
Et donc, on met la main sur toute la valeur ajoutée, les copains, et on gère tranquillement notre affaire. Qu'il y a des feignants ou pas qui bossent toute la journée, ou qui se branlent les couanes.
Ouais.
Voilà, c'est toute la valeur ajoutée de tout le monde qui va servir à tout le monde.
J'aimerais
juste qu'on aborde, je ne sais pas si c'est maintenant qu'on peut faire tout de suite, mais d'essayer de voir quelle différence ça fait de calculer les cotisations sur le salaire et de passer à un calcul sur la valeur ajoutée, voir c'est listé là où les différences que ça fait.
Ouais. J'ai pas les données pour faire ça.
Mais ce n'est pas sans des données, mais globalement, intuitivement.
En fait, ça simplifierait déjà beaucoup les choses. Parce que ça empêcherait la pédagogie patronale de dire qu'on paye des cotisations patronales.
Mais déjà, ça étend l'assiette, tu prends juste la scène.
Oui, ça étend.
Voilà, celle-ci. Parce qu'on voit que là, on calculerait les cotisations sur les trois carrés, salaire, profit,
sur ça, directement sur ça.
Voilà.
Ah oui.
Au lieu de
sur la valeur ajoutée,
tu calculerais sur 0,60 au lieu de sur 0,10. Ça étend l'assiette.
Voilà.
Mais c'est ça qu'on veut faire. Donc, d'accord.
Ça réduirait forcément les profits, la possibilité de profiter d'investissement.
Ben non, il n'y a plus de profit si on prend toute la valeur ajoutée.
Si on prend tout, mais si on ne prenait pas tout, si on faisait toujours
15%. Si on changeait l'assiette des salaires vers la valeur ajoutée elle-même.
Si on disait
ça ferait déjà augmenter la somme.
15% de la valeur ajoutée au lieu de 15% des cotisations, sur cet exemple-là, on double la somme.
Ouais.
C'est bon, les profits ne sont pas tellement taxés.
Comment
soumettre.
Les profits ne sont pas tellement taxés non plus.
Pas tellement. Bah
oui, mais du coup, justement. Est-ce que ça revient finalement à taxer les profits?
Bah oui. Pas à les taxer, mais à les faire réduire.
Tout à fait adapté.
À les réduire, c'est ça.
C'est pas une taxe.
Mais du coup, on peut avoir le même chantage. Des profiteurs qui me disent vous prenez de mes profits,
oui,
je vais
mais
je
c'est
vais
bien pour ça.
Mais les propriétaires,
et ça légitime autant.
C'est la dictature du propriétariat.
Ouais, Mathieu.
Ouais, c'est toi qui as fait le schéma.
Oui.
Parce que ce que je me dis sur ton schéma, moi ce qui me trouble, c'est en fait que jusque à la ligne salaire cotisation profit investissement, c'est clair. Mais en fait, après. Tu remets une flèche impôts et taxes et on a l'impression, si on ne connaît rien, que tous les profits ou tous les investissements, tous les salaires vont dedans. Ça vaudrait peut-être le coup de mettre un pourcentage, tu vois.
Oui, je veux
dire. Tu as mis des chiffres du début jusqu'à presque la fin.
Vraiment, ouais, t'as l'impression.
Ouais, juste pour dire. Voilà.
Poser des questions.
Ouais, pas évident à avoir.
Tu reprends les chiffres que tu avais au début.
Non, mais si tu remets des petits pointillés et tu sais que tu es à gauche, par exemple, comme ça on voit qu'il y a deux trucs différents.
Ouais. Bah écoute, Fabien, sur le plan pédagogique, il faudrait quand même que tu dises qu'il s'agit bien d'une propriété privée, d'un moyen de production privé qui est derrière ce chiffre. Et que nous, ce qu'on veut, c'est la collectivisation de la valeur ajoutée. Mmh. Voilà. Et donc, il faut commencer par dire que c'est, voilà, c'est une propriété, c'est le système capitaliste, c'est la propriété privée. Et dire que quand Marx dit la socialisation des moyens de production, ce n'est pas la socialisation de la propriété, c'est la socialisation de la valeur que cette... que le travail dans ses propriétés, ce n'est pas la propriété qui fait la valeur, mais que le travail des travailleurs dans ses propriétés privées font cette valeur ajoutée. C'est celle-là sur laquelle on va mettre la main. Et ensuite, les entreprises deviennent, alors pas notre propriété, mais alors un truc où je n'ai jamais rien compris, c'est propriété d'usage. C'est-à-dire qu'on leur pique, sans leur piquer, on continue de bosser dedans, mais...
On le gère nous-mêmes.
Mais on le gère nous-mêmes. C'est alors, donc, c'est bien une socialisation quand même de la propriété.
Mmh. Elles sont socialisées.
Ah bah oui. Alors, pourquoi on appelle ça ? Ça m'a toujours paumé, ce truc.
Usage.
Pourquoi on appelle ça propriété,
propriété d'usage, c'est socialisation, c'est la même
chose. C'est pareil.
Oui, c'est pareil.
Bah oui.
Oui, ça vient dégommer la propriété lucrative.
Mais... moi, qui suis un peu marxiste, ça me fait chier. Ça, j'ai jamais vu ça chez moi.
Ouais. Bon, d'accord. Bon, je continue.
Bon, allez.
Quand on arrive au bout... Donc, en gros, c'est dans le PIB, on a un tiers de protection sociale, un tiers de salaire direct et un tiers de profit. Donc, le but du réseau salariat, c'est de récupérer ce tiers-là de la valeur que nous avons créée et qu'on nous a piqué, qui va dans la poche des actionnaires et des prêteurs. Voilà.
Ah, alors,
c'est l'exemple du PIB de la France de 2016. Pourquoi 2016 ? Parce que ça tombe pile sur 2000 milliards. Et aujourd'hui, c'est même plus que 2700, c'est 2800 et quelques. Et en fait, là, c'est pour que vous voyez la répartition de salaire et profit dans le PIB. Vous avez les salaires ici, 1200 milliards, profit et bénéfices, 700 milliards, puis les indépendants, bah, leur profit, c'est leur salaire, donc ça ne tombe pas, c'est 100 milliards. Et donc, nous, on veut récupérer ces 700 milliards de 2016. Aujourd'hui, ça doit faire dans les 900 milliards. Donc, qui sont, dont seulement, sur les 700 milliards, il y a seulement 400 milliards qui sont réinvestis. Et réinvestis aux conditions des prêteurs et des détenteurs de capitaux qui veulent un retour sur investissement et qui disent où ils mettent leur argent. Et après, ben, il y a les opérations financières spéculatives, 250 milliards, les impôts, etc., 50 milliards. Donc, on veut récupérer tout ça pour en avoir la maîtrise. Parce que
tu veux les égorger aussi, les pans avec leur boyau.
Pas nécessaire. Juste la cotisation.
C'est violent ce que tu dis là. Pourquoi on veut faire de la violence comme ça ?
Ça, c'est le schéma.
À des riches qui donnent du travail aux pauvres.
C'est violent. Du coup, on n'a plus de temps pour les interventions. C'est ce que j'ai dit au début.
Bah oui.
Donc. Je vous propose d'écouter sagement et de trépigner d'impatience parce que vous ne pouvez pas parler. Et parce qu'on a plus de temps. Ça, c'est un graphique qui vient de Fakir. Là, à gauche, c'est la part des salaires dans la valeur ajoutée. Alors, on parle de sociétés non financières parce que si on se mettait à parler de valeur ajoutée des sociétés financières, là, comme ils spéculent et que ça n'a plus rien à voir avec l'économie réelle, on ne s'en sortirait pas. Donc, en gros, la part dans le PIB. On voit que cette part des salaires, elle a augmenté l'après-guerre, années 50, années 60, ça augmente, ça baisse un peu, ça augmente. Et puis, ça atteint un pic sous Mitterrand en 81, 82. Et après, il y a le tournant de la rigueur, le néolibéralisme qui arrive, et paf, ça diminue. Et depuis, ça vivote années 90-2000, et sous Macron, paf, ça baisse encore.
Oui, il faut associer le nom de Mitterrand, non pas au pic, du coup, c'est mais à la dégringolade. C'est
plutôt la dégringolade de Mitterrand.
Donc en fait, Mitterrand part d'un pic et puis il fait dégringoler.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Pour la compétitivité.
Voilà. Et l'emploi.
C'est sous Mitterrand, ça dégringole comme ça.
Ouais. Ouais. C'est le tournant de la rigueur.
C'est son deuxième mandat, c'est pas le premier.
Bah, à partir de 82.
Le deuxième mandat, c'est Rocard.
82, 83.
Le deuxième mandat, c'est la CSG avec Rocard.
C'est là de l'or. L'ami, c'est de Thatcher Reagan, c'est de l'or l'ami.
C'est ça.
Oui,
on a fait la même chose, mais en douceur, en profondeur, par les nôtres. C'est les nôtres qui nous
en parlent.
Et ça, c'est une autre manière, de présenter les choses. La part des salaires dans la valeur ajoutée des entreprises et la part des dividendes.
Donc
là, vous avez 1985, là, vous avez 2010. Donc, on voit qu'à partir du tournant de la rigueur, là, la part des dividendes, elle augmente doucement, et puis ensuite, années 80, fin des années 90, la Startup Nation et tout ça, paf, ça augmente. Et la part des salaires, ça diminue. Ça augmente un peu, mais là, maintenant, ça redimine. Donc, grosso modo, 9% à peu près du PIB sont passés du capital au travail entre 83
et le travail
au capital.
On dit 10% partout, pourquoi tu dis
9%? Non, c'est pas 10, en fait, c'est pas 10. Ah, c'est plus, c'est un arrondi, c'est 9. C'est plus de 200 milliards d'euros par an qu'on nous a piqué, en plus de ce qu'on nous piquait déjà en 82. C'est pas qu'en 82, on était dans une société communiste. Donc on nous a piqué 200 milliards par an en plus. Après, on nous parle de faire passer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans pour 10 milliards ou 12 milliards. 200 milliards, on nous a piqué. Comment ils ont fait ça? En réduisant les cotisations, beaucoup en faisant ça, depuis 79. Elles ont doublé entre 46 et 79, et depuis, elles diminuent. Au profit de l'impôt, payé par les salariés. Donc en 79, c'était plus que, entre guillemets, 80% de cotisations qui finançaient la Sécu. C'est 54% aujourd'hui. Enfin, en 2020. Et en 2019, il y avait des exonérations. En fait, c'est comme ça qu'ils font
toujours.
Et il y en a encore plus. Il y avait des exonérations
jusqu'à
2,5 SMIC. C'est-à-dire que... Mais maintenant, c'est même encore plus. C'est-à-dire que surtout les bas et moyens salaires, en fait, les cotisations sont réduites. C'est ça que ça veut dire. Donc, 75 milliards de réduction de cotisations en 2022. La rigueur salariale depuis 83, hein, la désindexation des salaires sur l'inflation, avant c'était automatique.
En 82 d'ailleurs.
Ouais, 82, c'est vrai. Le gel des salaires, le gel du point d'indice des fonctionnaires, j'ai pas le temps. La rigueur salariale, c'est le capitalisme. Hein, c'est le rapport de force qui s'inverse. Et puis l'étatisation de la Sécu depuis la CSG en 91, la CSG et la CRDS. Les impôts, donc on ne revient pas dessus, qui remplacent les cotisations. CSG, CRDS alimentent la CADES. Ça, vous allez en entendre parler beaucoup en ce moment. Et ce soir, à 18h, il est sur France Culture, il y avait un débat sur le financement de la Sécu. Et je propose qu'un jour, on prenne cette émission et on décortique phrase par phrase, parce que chaque phrase était de la propagande. Mais il y a tout dedans, donc c'est très intéressant. En fait, la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, elle est censée financer le soi-disant trou de la Sécu. Et en fait, le trou a été créé parce que, justement, depuis 1979, on réduit les cotisations. Donc, ça fait qu'on ne fait pas augmenter autant les recettes que ce qui est nécessaire. Donc, on crée artificiellement un trou. Qui, autrefois, il n'y a encore pas si longtemps, même encore sous Macron 1, l'État compensait automatiquement les trous via les emprunts d'État ou des financements par la Caisse des dépôts. Il en a fini avec cette règle et du coup, le trou existe vraiment maintenant. Donc on a une douzaine de milliards, je crois, et même ça va monter à 20 milliards, je crois, cette année, de déficit de la protection sociale, enfin de la Sécu.
Ce que je
me pose, c'est
qu'ils ont emprunté.
Oui, ils financent.
Voilà. Et donc, la CSG, la CSG.
Ils ont emprunté jusqu'à 60
milliards. La CSG, ouais.
C'est la CADES.
Alors,
c'est. La CADES, ouais.
La CADES est alimentée par la CSG, la CRDS. Mm-hmm. C'est ces deux impôts, ce n'est pas des cotisations. Et avec ça, elle assoit des titres. Elle s'en sert de levier pour emprunter. Donc elle émet des titres, la CADES émet des titres pour emprunter sur les marchés financiers. Alors que la cotisation, il n'y a pas besoin des marchés financiers. Donc ils ont inventé un mécanisme pour soi-disant combler le trou de la Sécu qu'eux-mêmes avaient créé.
Oui, ce que j'ai dit.
Où on va obliger la Sécu à emprunter sur les marchés financiers à des taux d'intérêt qui doivent être remboursés. Ce qui fait que Da Silva a calculé, entre 2014 et 2022, on a versé 70 milliards d'euros d'intérêts et de commissions sur les marchés financiers.
Et par ailleurs, pour expliquer sur un grand public, un truc assez simple à comprendre, l'intérêt de faire passer les cotisations aux impôts, c'est que l'État, la caste qui est oligarchique aux mains de l'État, avec les impôts, elle fait ce qu'elle veut, justement.
Oui, c'est ce que je disais.
Voilà. Alors que les cotisations, ne marchent pas.
Si vous voulez, on peut rediscuter après la deuxième partie, prendre un petit temps. Malgré ça, la sécu représente encore plus d'un tiers de notre économie, du PIB. Et donc, c'est pour ça que Friot dit qu'un tiers de notre économie est communiste. Donc, juste conclusion, perspective, l'enjeu de la sécu, c'est de conduire notre économie, etc. Je ne reviens pas dessus. Ce n'est pas que de verser des prestations sociales, c'est conduire notre économie. Et la cotisation sociale, c'est ce qui va dans le commun de la valeur qui est répartissable versus ce qui va dans le privé. C'est l'objet d'arbitrage politique et on doit se réapproprier ces arbitrages. La gestion de cette énorme quantité d'argent pourrait redevenir démocratique. Et avec la Sécu, si on la reprend en main, on pourrait l'étendre à d'autres domaines, l'alimentation, le logement, les médias, les animaux, la mort, tout. Mais même changer la pratique du travail. Voilà. Et le dernier graphique en 30 secondes, c'est que tout ne va pas si mal, en fait. Parce que là, on a parlé beaucoup de... On a parlé de ce qui va bien, du déjà-là émancipateur, mais aussi de tous les coups qu'on s'est pris. Et encore, je n'ai pas fait de slide dessus, hein, mais on s'est pris vraiment des coups sur la tête depuis 47. Mais quand on regarde le graphique sur la part des prestations sociales dans le PIB depuis 59 cette fois, pourquoi 59? Parce qu'en 58, on rajoute l'assurance chômage, l'UNEDIC. En 59, c'était 14% du PIB qui allait aux prestations sociales. Aujourd'hui, c'est 33% du PIB. Donc en fait, ça a vachement augmenté. Et c'est ça le modèle français. Il est là. Il est là, le modèle français. Donc, oui, vous voyez que ce qui a augmenté le plus, c'est la santé.
Oui, mais ça nuit à notre productivité les marchés.
Attends. C'est les retraites.
Bah oui.
Ça, c'est ça qui est différent des autres pays. Le reste, c'est à peu près pareil sous d'autres formes dans d'autres pays. Ça, c'est différent. On a sorti les retraités de la misère. Et on en a fait des salariés à vie libre. Voilà. Et puis, il y a le chômage. Ça, il y a dans d'autres pays. Le vrai modèle français qu'il n'y a pas ailleurs, c'est d'avoir réussi à faire ça.
Oui, mais la question sociale s'est aussi beaucoup dégradée depuis les années 80-90. Du coup, il y a de plus en plus de prestations qui doivent être versées parce qu'il y a plus de pauvres. Hein.
Oui. Mais on voit qu'en valeur, que la valeur de la part du PIB qui est attribuée à la protection sociale ne cesse d'augmenter malgré tous les coups de boutoir. Donc la question, ce n'est pas la mort de la Sécu. Elle n'est pas en train de mourir, regardez, 33% du PIB. C'est la mort du régime général de Sécu. Et donc la lutte des classes se fera dans est-ce que c'est nous qui allons reconquérir la Sécu ou est-ce que toute cette valeur-là va... Elle va continuer à exister, mais elle va être privatisée, elle va être gérée par les capitalistes.
On passe de 14% à 33%, mais est-ce qu'on a pris en compte l'augmentation de la population hein, depuis 59 à...
Oui, il y a aussi ça, mais là, ce n'est pas en valeur absolue, c'est
en valeur du pays, en proportion.
D'accord. Okay. Voilà, donc ce n'est pas la capitalisation contre la répartition, c'est comment est conçue cette valeur énorme et sur quelle base elle est répartie. C'est ça l'enjeu. Donc soit on laisse l'État gérer cette main de sa façon, une production bureaucratique capitaliste au profit de 3 millions de millionnaires des grandes entreprises, où on cherche à reprendre le contrôle.
Il y a combien de millionnaires en France?
Ouais.
3 600 000.
Et c'est facile, tu as deux baraques, t'es millionnaire. Hein.
Ouais. 3 600 000 millionnaires.
Voilà, fini.
Merci Damien.
C'était un marathon.